Seigneur soit béni. Heureux de vous retrouver, heureux de pouvoir partager ce partage biblique ce soir avec vous. C'est ma troisième, la première fois il y a quelques mois de ça, ensuite il y a 15 jours, là c'est la troisième. Oh, dans la prochaine fois je serai usé. Voilà. Là, le phénomène de nouveauté sera terminé, voilà. Voilà. On se ment pas. Donc je profite encore. Ce soir, j'aimerais aborder de manière très très générale, faire un point un petit peu sur l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux, c'est peut-être l'une des épîtres les plus complexes parce qu'elle fait appel finalement à une culture qui nous est complètement différente, qui nous est complètement inconnue. D'accord ? Et pour bien la comprendre, il faut en maîtriser les marqueurs. Très souvent, quand on lit la parole de Dieu, on a l'impression que les livres de la Bible sont tombés là comme ça et que Dieu les a inspirés d'une manière très mécanique aux auteurs. En réalité, il faut savoir que chaque livre de la Bible, et notamment dans le Nouveau Testament, ça répond à une question. Et pour bien comprendre les livres de la Bible, et notamment les épîtres, lorsque nous les lisons, il est nécessaire de connaître la problématique. Il est nécessaire de savoir à quelle question, finalement, répond l'épître ou répond le livre. Par exemple, lorsque nous lisons la première aux Corinthiens, l'apôtre Paul répond à une lettre qu'il a reçue des Corinthiens qui lui posent des questions au sujet des dons spirituels, des viandes sacrifiées aux idoles, etc. Lorsqu'il écrit la seconde aux Corinthiens, il répond à ses détracteurs et il veut finalement mettre les choses au point puisque dans l'église de Corinthe se sont introduits des personnes qui attaquent profondément son ministère. Même les évangiles répondent à des questions, en réalité. L'évangile de Matthieu, a répondu, du moins a été écrite de manière à parler au peuple juif, d'où les citations hébreux qu'il peut y avoir dans l'évangile de Matthieu. L'évangile de Marc, en revanche, est adressé aux Romains. Aux Romains, tout simplement. Et c'est pour ça que Marc, lorsqu'il écrit, utilise des récits extrêmement courts, basés essentiellement sur des miracles, parce que les Romains étaient friands de puissance. A contrario, Luc va écrire à un grec et donc il va prendre le soin d'essayer de remettre de manière chronologique, même si ce n'est pas complètement le cas, l'histoire et le récit de Jésus. Et même l'évangile de Jean, qui est le livre le plus ancien de la Bible, a été écrit pour répondre à la question suivante, remettre le ministère de Jésus au-dessus de celui de Jean-Baptiste. D'accord ? Donc, on s'aperçoit que tous les livres répondent à une question. Et ce soir, j'aimerais voir avec vous quatre points et voir en particulier la question à laquelle répond l'auteur aux Hébreux lorsqu'il va écrire cette épître, de manière à ce que nous puissions mieux comprendre un petit peu cette épître. La première, donc, quatre choses que je vais voir avec vous. La première, c'est à quel moment est-ce que l'épître aux Hébreux a été écrit ? Donc, il a été écrit entre 70 et 90 après Jésus-Christ. Donc, c'est en pleine période de la persécution, avec comme point d'orgue la destruction du temple de Jérusalem, etc. Et donc, finalement, c'est une période qui est extrêmement compliquée et le peuple de Dieu est vraiment persécuté, quoi. C'est une période extrêmement sombre dans l'histoire du christianisme. Et pourtant, et moi, c'est un truc qui m'a fait tilt lorsque je l'ai relu il n'y a pas si longtemps que ça, le niveau spirituel de l'apôtre, ne descend pas. Et au contraire, alors que le peuple est persécuté, il va leur écrire « C'est un sujet sur lequel nous avons bien des choses à dire et qui sont difficiles à expliquer, car vous êtes devenus lents à comprendre. En effet, après tout ce temps, vous devriez être des maîtres dans les choses de Dieu. Or, vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne les rudiments des paroles. Vous en êtes venus au point d'avoir besoin non de nourriture solide, mais de lait. » Imaginez que vous n'êtes pas bien, que vous traversez une période de persécution, une période d'épreuve, et que Nathanaël vient vous voir et vous dit « Attends, ce que tu es en train de vivre là, si tu étais un homme de Dieu, tu ne le vivrais pas. » Je pense que ce serait compliqué, ce serait difficile. Okay ? Et pourtant, alors ensuite, il y a plein de paroles d'encouragement, on va les voir, d'accord ? Mais et pourtant, l'auteur aux Hébreux, de manière sommaire, il dit « Hé, c'est pas parce que vous êtes persécuté que pour autant, le niveau doit baisser. » Et il va donner le mode d'emploi. Ensuite, slide suivante, lorsqu'il va dire, c'est pourquoi nous aussi qui sommes entourés d'une telle foule de témoins, donc Hébreux 12 fait suite à Hébreux 11, que l'on connaît bien, d'accord ? Débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus. qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice, et désormais il siège à la droite du trône de Dieu. Pensez à celui qui a enduré de la part des hommes pécheurs une telle opposition contre lui pour que vous ne vous laissiez pas abattre par le découragement. Ne baissez pas le niveau, mais si vous pouvez le faire, c'est parce que non seulement avant vous, il y a des hommes qui ont réussi, mais s'ils ont réussi, c'est parce qu'ils ont gardé les yeux fixés sur celui qui est l'auteur et le rémunérateur de votre foi. Et j'aimerais m'adresser à toi, qui passe par des moments hyper compliqués. Ne baisse pas le niveau. Ne baisse pas le niveau de ta relation avec Dieu. Ne baisse pas le niveau de ton engagement dans l'amour pour les autres. Parfois, on a tendance à penser que la souffrance est comme une excuse pour finalement prendre un peu de distance. La réalité, elle est tout autre. C'est que plus la souffrance est forte, et plus mon intimité avec Dieu a vocation à l'être également. Et quel que soit ce que tu endures, quelles que soient les injustices que tu peux endurer, parce que la persécution, c'est quelque chose qui est profondément injuste, mettre sa vie en jeu à cause de notre foi, à cause de ce que nous croyons, c'est juste quelque chose qui n'a aucun sens. Mais pourtant, même dans cette injustice profonde que tu traverses et que tu vis, ne baisse pas le niveau. Reste en Jésus. Reste avec lui. Reste attaché à lui. Parce que non seulement il te dit de ne pas baisser le niveau, mais il te montre que c'est possible. Jésus sur la terre a été pleinement homme. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Donc que Jésus ait appris l'obéissance, c'est déjà quelque chose de dingue. Il était fils de Dieu, ok ? Et il l'a appris comment ? Par les choses qu'il a souffertes. Et très sincèrement, Jésus homme te montre à quel point, eh bien, il est possible pour toi de continuer à avancer, même lorsque tu ne comprends pas et lorsque tu passes par une forme d'injustice. On a tous vécu ce moment où on passe par des moments compliqués et où on essaye de donner du sens à ce que l'on vit. Si je passe par là, c'est parce que demain, eh bien, Dieu va me bénir, ou que Dieu a un autre plan, ou que Dieu... Et toutes ces paroles, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça ne marche pas, quoi. Ça sonne faux. C'est comme si on essayait finalement de mettre du sens à ce qui n'en a pas. Et lorsque ça ne fonctionne pas, ça fonctionne. En disant, ok, moi je ne comprends pas, moi je ne sais pas. Mais de la même manière que toi, mon Dieu, tu as subi eh bien, une injustice profonde que mon intellect ne comprend pas, mais pourtant toi tu as vaincu. Alors je veux marcher dans tes pas et je veux te laisser eh bien, prendre cette injustice, je veux te laisser prendre cette situation et moi je ne veux pas me focaliser sur la manière dont tu vas la régler, je ne veux pas me focaliser sur la sortie, sur le bout du tunnel, mais je veux me focaliser sur mon bon berger qui marche à mes côtés et auquel je peux tenir la main, quoi. Et ça, c'est notre plus grand trésor. Asaph, lorsqu'il sera paumé dans le psaume 73, il dira, alors qu'il se révoltera en disant « Mais moi, j'ai lavé les mains dans le sang, moi, j'étais clean, moi, j'étais un bon chrétien, j'ai fait tout ce qu'il fallait, je suis même allé aux réunions de prière le mardi soir, et pourtant, eh bien, je ne suis pas béni, et les méchants, ils le sont. » Et tout d'un coup, clac, il va tilter en disant « Ouais, mais en fait, m'approcher de Dieu, c'est ça mon bien, quoi. » Eh bien, reste, ne baisse pas le niveau. Même quand tu ne comprends pas et que tu as envie de le baisser, regarde à Jésus qui, lui, ne l'a jamais baissé parce que sinon, il n'aurait jamais vécu en toute chose comme nous sans jamais commettre de péché. Alors accroche-toi. Accroche-toi à celui qui a vaincu et qui te montre que la foi est possible. Ok ? Slide suivante. Que retenir finalement de cette notion d'exigence de la persécution via la datation ? C'est que la loi ne me soutient pas dans l'épreuve, mais la grâce, oui. La loi a le mérite de me cadrer dans l'épreuve. Les règles ont le mérite de me cadrer dans l'épreuve, de manière à éviter que je fasse n'importe quoi. Mais ça ne me soutient pas. Tandis que dans l'auteur aux Hébreux, on s'aperçoit que la personne de Jésus, tout comme dans la Bible d'ailleurs, on s'aperçoit que la personne de Jésus, elle, est un soutien qui est profond. La deuxième chose, c'est que la présence de Dieu dans nos vies nous pousse à être exigeants. Et T'as pas n'importe qui dans ta vie. Et tu es le temple du Saint-Esprit. Il y a le Saint-Esprit qui vit en toi. Et donc, dans les galères qui sont les tiennes, il y a le Saint-Esprit qui vit en toi. Et donc, finalement, ben, comporte-toi comme tel, quoi.
Il y a cette image que l'on connaît bien et que j'aime beaucoup. Un jour, il y a un ornithologue qui arrive dans une basse-cour. Un ornithologue, c'est le monsieur, c'est le scientifique qui étudie les oiseaux. Je ne sais pas si cette histoire est vraie ou pas, mais en tout cas, elle mérite de raconter quelque chose de vrai. Et puis, au milieu des poulets, il voit un volatile. Il voit un aigle. Et là, il va dire, mais qu'est-ce que cet aigle fait là? Ben, en fait, l'aigle, il était tombé là étant petit, et il est tombé au milieu des poulets, il a vécu comme un poulet. Et bien, parfois, nous qui sommes des enfants de Dieu, on oublie que nous sommes des aigles et on se comporte comme des poulets. Alors, osons, quoi. Osons dire, même dans la difficulté, on avance. Et ça avance sur mon troisième point, c'est que la persécution n'a jamais été, et l'épreuve n'est pas un moyen de sanctification. Dans le milieu chrétien, on se dit, oh, l'épreuve nous sanctifie. La seule chose que l'épreuve fait, c'est qu'elle nous fait mal. On est OK avec ça ? L'épreuve n'est pas un vecteur de sanctification. Mais ce qui nous sanctifie dans l'épreuve, c'est le choix que l'on y fait. Jésus a joué de ses manées. Jésus n'avait pas besoin d'être sanctifié, je reste doctrinal. Okay. À un moment donné, la pression est telle qu'il va dire, Père, que cette coupe s'éloigne de moi. Et Jésus fait le choix de dire, mais non pas ma volonté, mais la tienne. Et à ce moment-là, des anges viennent le servir. C'est-à-dire que dans l'épreuve, on peut traverser l'épreuve sans être sanctifié et juste en étant brisé. Un petit peu comme le peuple d'Israël dans le désert, pour la plupart. Alors que, à partir du moment où dans cette épreuve, je fais le choix de me comporter comme Jésus et de rester attaché à Jésus, c'est alors que mon caractère est sanctifié et c'est alors que l'épreuve produit la patience, etc. Et tu es éprouvé à ton travail, il y a tes collègues qui te pourrissent la vie, tu as le choix soit de râler, de hurler sur eux, et puis d'avoir un comportement délétère, ou alors celui de prier pour eux et de choisir de les bénir. Et dans cette situation, alors, tu verras que peut-être que pour eux, ça ne changera rien, mais toi, il y a quelque chose de divin qui viendra à ton cœur. C'est ce qu'on appelle la sanctification. L'épreuve ne fait que nous briser, mais le choix que nous faisons dans l'épreuve, c'est lui qui nous sanctifie. Et c'est à cela que l'auteur aux Hébreux veut emmener les Hébreux. C'est-à-dire, ok, vous êtes persécutés, mais quels seront les choix que vous ferez dans l'épreuve ? Parce que sans la sanctification, autre verset de l'Épître aux Hébreux, nul ne verra le Seigneur. Ok ? Première chose, donc l'adaptation. Deuxième chose, avant que vous vous endormiez, parce que j'en ai encore trois derrière, okay, c'est qui est l'auteur ? On ne sait pas. D'accord ? On ne sait pas. Alors, si jamais on devait faire un pronostic avec les bookmakers, etc., je pense que l'apôtre Paul tiendrait la corde, d'accord ? Mais concrètement, on ne sait pas. On sait juste que c'est un proche de Timothée, Hébreux 13, 23. Sachez que notre frère Timothée a été libéré. S'il arrive assez tôt, je viendrai vous voir avec lui. Ok ? Donc, on sait que c'est un proche de Timothée. On sait qu'il fait partie de la communauté juive et qu'il est instruit dans la culture juive. Hébreux, chapitre 1, verset 1. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes. Okay, donc, il s'associe à cette communauté. On sait également qu'il parlait, qu'il écrivait le grec et qu'il était versé dans le monde grec parce que, eh bien, l'auteur aux Hébreux n'est pas forcément écrit en araméen, mais il est vraiment écrit avec des morceaux de la version Septante. Et donc, notamment les traductions, pardon, de l'Ancien Testament sont faites avec la Septante. Et donc, on s'aperçoit que c'est quelqu'un qui maîtrisait et qui voulait que l'auteur aux Hébreux même puisse être connu au-delà de ce simple public. En quelque sorte, donc, on ne sait pas qui est l'auteur aux Hébreux. Et quelque part, est-ce que c'est important ? Pas vraiment. Sinon que ça fera une question de plus à poser au Seigneur là-haut, même si je pense que là-haut, on s'en fichera un petit peu. Mais finalement, que de retenir de cette notion ? C'est juste de se dire que son épître est connue et que lui non, et que parfois même, dans nos vies, on a juste à accepter que nos œuvres, elles-mêmes, ne seront pas connues. Je ne sais pas si l'auteur aux Hébreux, lorsqu'il leur a envoyé cette lettre, avait la conscience du retentissement qu'elle pourrait avoir. De la même manière que cette veuve qui a mis les deux pites dans le tronc, je ne sais pas si elle avait conscience que, encore plus de 21 siècles après, un grand monsieur sur une estrade parlerait d'elle. Je ne pense pas. Et dans nos vies, je pense que les plus grandes œuvres que nous accomplissons sont celles dont nous n'avons pas conscience. Mes collègues pasteurs le savent bien, les vies que l'on marque le plus ne sont pas celles dont nous nous sommes le plus occupés, mais ce sont celles auxquelles nous avons donné des paroles de Dieu sans même en avoir conscience. Et des années plus tard, on retrouve un jeune homme, une jeune fille, un homme, une femme qui nous dit « Ah, le jour où tu m'as dit ça, ça a tout changé. » C'est notre épître aux Hébreux à nous. Et dis-toi que tu as plein d'épîtres aux Hébreux que tu peux écrire. Juste en aspirant au don spirituel. Juste en désirant être rempli du Saint-Esprit, à vouloir vivre la vie de l'Esprit, à vouloir faire du bien à ton prochain, à vouloir porter la bonne odeur de Christ, juste en y aspirant de tout ton cœur. Alors, sans même que tu t'en rendes compte, tu écriras toutes sortes d'épîtres aux Hébreux dans des cœurs et dans des vies. Parce que c'est à ça que nous sommes appelés. Le fait d'avoir utilisé par Dieu est déjà un cadeau fabuleux. C'est vrai ? Et très souvent, on est balèze comme les chrétiens, parce qu'on pense que servir, c'est un cadeau que l'on rend à Dieu. Ça vous est jamais arrivé, vous ? Moi, oui. Moi, oui. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Ça, vous me gardez quand même ? Ok. Alors que c'est le contraire. Parce que même quand j'ai fait tout ce que j'avais à faire, au bout du compte, je reste et je demeure un serviteur inutile. Pour la simple et bonne raison, c'est que Dieu aurait très bien pu le faire sans lui, sans moi, pardon. Mais moi, je n'aurais jamais pu le faire sans lui. L'auteur aux Hébreux n'est pas connu. Il a écrit cet épître qui a marqué des générations. Pour autant, il a été un serviteur fidèle, bien qu'inutile. Troisième chose, et là on arrive sur les choses qui sont un peu intéressantes, c'est les destinataires. Alors, je vous passe le grand débat théologique, notamment avec Luther, qui explique que ce n'est pas forcément les Hébreux qui sont... Bref, c'est pas notre débat ce soir. Mais nous pouvons penser que les destinataires sont les Juifs convertis au christianisme qui sont en train de remettre, finalement, la culture au-dessus de la foi. C'est-à-dire qu'ils ont, quelque part, accepté le basculement de la loi à la grâce. Et puis, le temps passant, les persécutions passant, les pressions familiales passant, la pression sociale passant, eh bien, on s'aperçoit, ou du moins c'est ce qui semble se produire, que Jésus descend et que les traditions et que le judaïsme est en train de refaire son retour dans leur cœur et dans leur vie. Et c'est la raison principale pour laquelle eh bien, l'auteur aux Hébreux va leur écrire eh bien, cette lettre, Hébreux chapitre 1, verset 1, à bien des reprises et de bien des manières, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes. C'est-à-dire, a parlé autrefois. Vous avez été au contact eh bien, de la personne de Dieu. Slide suivante. Et finalement, qu'est-ce que ça nous apprend ? Ça nous apprend que la foi peut devenir ou redevenir une culture lorsqu'elle ne produit plus de changement. La culture, même dans le monde évangélique,
Et même dans le monde assemblée de Dieu, nous avons notre culture. C'est ce que j'appelle notre liturgie, de manière à être un peu provocateur. Okay et, bon, allez, j'ouvre une petite parenthèse, mais parfois dans les églises, le changement de liturgie provoque plus de dégâts que les points doctrinaux. Je ferme la parenthèse. Et là, ce qui était en train de se passer, c'est que finalement, tout ce qui avait été appris par les Hébreux lorsqu'ils étaient petits, toute la culture juive, judaïque, était en train de revenir et était en train de remettre en question le passage à la grâce. On peut imaginer que quelqu'un, à un moment donné, un ancien témoin de Jéhovah qui a été éduqué dans la culture des témoins de Jéhovah et qui est basculé vers la connaissance de Jésus, fils de Dieu, eh bien, puisse avoir tendance à remettre en question les fondements essentiels parce qu'il y a toute cette culture qui refait surface. C'est compliqué de lutter contre notre éducation, contre les injonctions de notre éducation. C'est compliqué de lutter contre les injonctions de notre culture. C'est loin d'être évident. Et c'est ce combat que les Hébreux étaient en train de mener. Et même nous, dans nos vies. Parfois, la foi peut se transformer en forme de religion, en forme de religiosité. Et ça se fait tellement vite. Et le marqueur, c'est quand l'acte, les actes que nous produisons, prennent plus d'importance que la relation que nous avons avec Dieu. À quel endroit doit-on prier? À quel endroit doit-on adorer? Ou alors, si je devais transposer aujourd'hui, est-ce qu'on doit prier à genoux, debout? Quand le fait de venir à l'église, ou même quand le fait de lire sa Bible, devient un acte qui est déchargé de relations et qui n'est basé que sur une habitude et absolument pas sur la conscience de ce que nous faisons, alors ça devient une tradition. On aura l'occasion de le revoir, certainement, mais le pourquoi nous faisons les choses a souvent plus d'importance que l'acte en lui-même. Celui qui donne un verre d'eau à un prophète aura une récompense de prophète. Tu as une bouteille d'eau, tu me donnes de l'eau parce que tu as pitié, et puis parce que, voilà, c'est pas la même chose que si tu me le fais, que si tu me donnes de l'eau avec de tout ton cœur. Pour Dieu, ça n'a pas le même sens. La foi peut se transformer en légalisme quand le texte passe au-dessus de mon prochain. C'est l'épisode du sabbat. Le sabbat est fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. D'accord ? Quand dans ma vie, les dogmes et les principes deviennent supérieurs à mon prochain, ça pose problème. Je me souviens de ce couple. Je les ai récupérés dans l'église, c'était un couple de chrétiens. Et ils avaient des enfants, notamment ils avaient trois fils. Et les trois fils vivaient dans une misère noire, dans une misère morale noire, avec des mœurs qui étaient ô combien compliquées. Et puis ils tombent sur un pasteur qui leur dit « Surtout ne laissez plus rentrer vos enfants chez vous, parce qu'ils vont vous contaminer avec leurs péchés. » Et ces parents se sont, j'allais dire, coupés de leurs enfants pendant quasiment 10 ans. Ils sont arrivés dans l'église dans laquelle j'étais, il y a quelques années de ça, complètement brisés. Je leur ai dit, mais vous pouvez me répéter ce qui s'est passé? Le texte, la peur du péché, avait fait en sorte que des parents se coupent de leurs enfants. Tout ce que la religion peut produire de plus sale. Quand dans mon cœur, les dogmes, les principes coupent les relations, alors ça signifie que finalement, je suis en train de revenir en arrière
et que la notion de la grâce, qui pardonne, qui accepte, que la personne de Jésus qui mange avec des prostituées, qui s'approche des lépreux, comme Nathanaël nous l'a répété dimanche à plusieurs reprises. T'as vu, j'écoute. Que, eh bien, quand on oublie ça, ça signifie juste une chose, c'est qu'on est en train de revenir en arrière. Et que notre cœur de chair est en train de redevenir un cœur de pierre. Quatrième point, le contenu. Que raconte l'auteur aux Hébreux ? Et bien sûr, rassurez-vous, nous ne prenons pas chapitre par chapitre et verset par verset ce soir. D'accord ? Mais l'auteur va juste vouloir repositionner Jésus au-dessus de tous les marqueurs de l'Ancien Testament. C'est-à-dire que, allez, grosso modo, d'accord, il va commencer par les anges dans le chapitre 1er, ensuite il va continuer par Moïse, par les souverains sacrificateurs, par l'Ancienne Alliance, par le tabernacle, etc. Et à chaque fois, il va prendre ses marqueurs du judaïsme et il va montrer la supériorité de Jésus sur ces marqueurs-là. Relisez l'auteur aux Hébreux et vous verrez, c'est hyper clair, grosso modo, jusqu'au chapitre 11. Il va dire, ok, vos souverains sacrificateurs, c'était extraordinaire, mais Jésus, lui, eh bien, son sacerdoce, il continue après. Moïse, il était fabuleux, il a été fidèle dans toute la maison, mais il a été limité. Et Jésus, lui, il est bien au-dessus. Les anges, même s'ils ont marqué votre histoire, parce qu'il y a eu des représentations, il y a eu des théophanies, etc., eh bien, il n'en reste, et qu'il y avait un culte des anges hein, chez les Hébreux, eh bien, il n'en reste pas moins que Jésus est supérieur aux anges. Donc, il va reprendre tous les marqueurs. Et finalement, pour leur dire une simple chose, c'est que Jésus est au-dessus de tout. Jésus est au-dessus de Moïse, Jésus est au-dessus eh bien, des souverains sacrificateurs, Jésus est au-dessus du tabernacle, même si ça a été quelque chose d'extraordinaire, il est au-dessus du temps. Bref, Jésus est au-dessus. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut que l'on garde profondément dans nos vies. Parce que parfois nos difficultés peuvent nous sembler être au-dessus de Jésus. Parfois, le Bagdad qu'il peut y avoir dans nos têtes, le désordre dans nos têtes, la forêt de questionnements qu'il y a dans nos têtes, peuvent nous sembler être au-dessus de Jésus. Et toute la discipline spirituelle qui est la nôtre, c'est de dire, « Eh oh, mon âme, tu peux penser ce que tu veux, mais ce que je sais, c'est que le Dieu qui m'a sauvé, il est au-dessus de toutes les difficultés. » Ce que je sais, c'est que le Dieu qui m'a restauré, le Dieu qui m'a fait prince et princesse d'en haut, il est au-dessus de tout le désordre qu'il peut y avoir dans ma tête. Parce que non seulement il est mort, mais il est ressuscité. Et il continue eh bien, à accomplir eh bien, son œuvre dans le ciel pour moi. Et ça, c'est une réalité. C'est toute la discipline de nos vies. Et quel que soit ce que le monde peut te montrer, quel que soit ce que ta vie peut te montrer aujourd'hui, souviens-toi d'une chose, c'est que celui qui vit en toi est plus fort que celui qui est contre toi et qu'il est plus fort que toutes les circonstances. Et que ça, c'est une réalité que tu dois garder forte dans ton cœur. Et je conclurai en disant que, finalement, on ressemble souvent aux Hébreux. Tu peux la chanter, celle-là, sinon ça va être trop long. On ressemble souvent aux Hébreux. Nous aussi, on peut retourner en arrière dans nos raisonnements. Retourner en arrière dans le positionnement que l'on donne à Jésus dans notre vie, que l'on donne à Jésus dans notre agenda, que l'on donne à Jésus dans nos préoccupations. Et ce n'est pas un problème, j'allais dire. C'est juste quelque chose qui est hyper naturel. À certains moments, de baisser les bras, ben, c'est naturel, quoi. Parce que quand c'est trop lourd, quand c'est trop compliqué, quand on passe par la maladie depuis 6 mois, 8 mois, 1 an, ben y a bien un moment où ça commence à peser un petit peu, quoi. Je me trompe ? Quand on prie et puis que l'exaucement ne vient pas, baisser les bras, vouloir revenir en arrière, vouloir challenger nos croyances et les remettre en cause. Faire comme les Hébreux. Ça nous est arrivé. Je pense même que ça nous arrivera encore. En revanche, il y aura toujours un auteur qui nous écrira une lettre pour nous dire, allez, remets Jésus en place. Et reviens aux fondamentaux. Ça pourrait être un don spirituel un dimanche, ça pourrait être une prédication, ça pourrait être une pensée, ça pourrait être le sourire d'un gosse, ça pourrait être un témoignage, ça pourrait être un buisson ardent qui brûle mais qui ne se consume pas. Ça pourrait être toutes sortes de choses. Ça pourra être un Aaron et un Hur qui nous prendront nos bras et qui nous diront « Allez, on va prier ensemble. » Et puis une énergie nouvelle nous sera donnée. Le problème, ce n'est pas de baisser les bras. Le problème, c'est de les laisser baisser. C'est tout. Jésus a prié pour que la foi de Pierre ne défaille pas. Dieu a donné Jésus pour que quand mes bras soient baissés, sa grâce puisse m'aider à les relever. Alors, ne culpabilise pas d'avoir baissé les bras. Ça arrive au meilleur. Mais ce soir, c'est peut-être le moment de dire, allez, je reprends le chemin, je reprends la route. Pas simplement en acte, mais du fond de mon cœur. Je le redis, pas simplement en acte, mais du fond de mon cœur. Et je rentrerai ce soir. Je vais me mettre au pied de mon lit. Et puis je vais dire à mon Dieu, allez, on est reparti pour un petit bout ensemble, jusqu'à la prochaine fois où j'aurai envie de baisser les bras. Mais on recommencera. Parce qu'après tout, moi je suis humain, mais toi tu es Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fasse du bien. Amen. Seigneur, merci parce que chaque fois que nous avons eu les bras baissés, chaque fois que nous avons eu nos cœurs qui ont défailli, nos chevilles qui ont chancelé, d'une manière ou d'une autre, Seigneur, tu as su nous relever. Chaque fois que nos vies ont été à deux doigts de basculer dans le mauvais sens, nous avons connu des opportunités de nous relever et de retomber du bon côté. Merci. Merci pour ta providence. Merci pour l'Église. Merci pour les dons spirituels. Merci pour la vie de l'Esprit. Merci pour la communion fraternelle. Merci pour le Saint-Esprit qui vient en nous. Merci, Seigneur mon Dieu, pour la conviction de péché, de justice, de jugement. Merci pour ta parole. Merci simplement pour qui tu es, Seigneur mon Dieu, parce que tu es notre meilleur ami, celui qui ne sommeille ni ne dort. Alors que ton nom soit béni. Je te prie pour chacun de mes frères et sœurs, ici présents, Seigneur mon Dieu, comme ceux qui sont chez eux. Je te prie pour ceux qui sont fatigués, qui sont chargés par la marche, pour ceux qui en ont gros sur la patate, pour ceux qui sont épuisés, Seigneur mon Dieu, par les épreuves, par les contrariétés, par les douleurs et par les souffrances. S'il te plaît, Seigneur, je te prie pour que cette soirée, cette parole, Seigneur mon Dieu, puisse juste être un moyen de leur redonner un boost, une énergie pour qu'ils aillent plus loin, jusqu'à la délivrance et jusqu'à ce que ta main se pose. Merci d'étendre ta main, merci de faire grâce et que ton nom soit béni, Jésus. Amen.